Ce qui fait une très bonne transition avec la troisième partie, dynamique, qui est au cœur de cette troisième partie, c'est vraiment de voir que le pouvoir du capital, donc c'est pas quelque chose qui est monolithique, c'est à la fois résultat de l'exercice de ce pouvoir, mais source d'un pouvoir qui est toujours renouvelé, et il va s'y intéresser à travers différentes dimensions. Là, il mentionnait donc la domination de classe et ses aspects très concrets sur le lieu de travail, donc c'est l'objet d'un chapitre, mais il va aussi s'intéresser à la manière dont le capital va reconfigurer la nature et l'espace, ou subsumer la nature, et puis il s'intéresse aussi à la production d'une population excédentaire et aux crises comme source d'un pouvoir renouvelé et renforcé à l'occasion des crises. Alors, qui commence sur cette troisième partie ?
Je vais bien un peu expliquer ce qu'il fait dans cette partie, parce qu'en fait, sinon, on a l'impression que c'est un peu une partie où il va mettre tous les thèmes qu'il n'a pas pu traiter jusqu'alors, crise, nature, etc. Mais en fait, comme on a dit, il a une théorie assez complexe du pouvoir. C'est pas juste, bon, c'est parce qu'on est forcé d'aller travailler, etc. Cette contrainte qui nous force à nous lever le matin. En fait, il essaye donc, comme on a dit, de montrer qu'il y a cette double scission. Et la double scission, c'était le fait de s'immiscer entre l'outil et l'homme, ou la femme. Et puis après, il y avait l'idée de profiter du fait que les êtres humains sont capables d'accumuler ou de faire du surproduit, et donc que certains peuvent accumuler plus de surproduit que d'autres. Et donc ça, c'est deux choses. Mais ensuite, il va dire, il y a aussi des sortes de dynamiques ou de lois fondamentales qui produisent une circularité du pouvoir. Et donc, ce qu'il va vouloir montrer dans cette partie, c'est comment cette circularité se produit. C'est-à-dire, comment, en fait, le pouvoir pose sa propre présupposition. C'est-à-dire, il est à la fois le résultat de sa dynamique et la source de sa dynamique. C'est là où il va sortir d'une sorte de, peut-être, vision un peu plus statique, et il va vouloir dynamiser, en fait, cette théorie du pouvoir. Il va vouloir montrer qu'elle suit des logiques qui vont s'intensifier, qui vont se renforcer. Par exemple, quand on arrive à la question de la subsomption, bah, il continue un peu à sa méthode. Il va montrer, bon, bah, le concept de subsomption, il a été un peu maltraité par plusieurs écoles marxistes. Et en fait, on va avoir les négris ou les post-opéraïstes qui vont parler d'une sorte de subsomption totale de tout. Mais Jameson aussi, c'est un concept qui va être aussi utilisé pour les philosophies de l'histoire. Bon, on va périodiser les choses selon les cycles de subsomption, etc. Et lui, bah, il va vouloir là aussi être un peu plus sobre et un peu plus, on va dire, carré sur comment on utilise ce concept, puisqu'il est très important et très utile, mais que si on dit que tout est subsumé, en fait, on ne dit plus rien. Il va revenir sur la question du pouvoir du capital dans le milieu de travail. Donc là, il va un petit peu zoomer, on n'est plus sur la question de marchés mondiaux et de concurrence internationale, mais de qu'est-ce que c'est qu'une subsomption réelle et formelle, et donc pourquoi la subsomption réelle va encore intensifier les mécanismes du pouvoir sur le lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Marx plus classiquement.
Pour repréciser dans les grandes lignes, la subsomption formelle, c'est quand le capital hérite de processus de travail qui le précèdent, ou alors qui se contente d'additionner les forces de travail sur un même lieu de travail, dans la manufacture, mais qui ne transforme pas encore le processus de travail lui-même en le saisissant à sa racine, c'est-à-dire transformer les outils, la machinerie utilisée, la technologie, les cadences, l'organisation du travail, et donc à s'approprier ce qu'il appelle les composantes sociales de la division du travail, c'est-à-dire jusqu'à la coopération. Du coup, c'est la restructuration vraiment matérielle de la reproduction et de la production sociale. Ça pourrait être l'usage, comme disait Camilla, le plus orthodoxe de la subsomption. Là où il se distingue un peu, c'est que c'est là où il peut le plus, quelque part, sauver Foucault de sa tendance à ne pas s'intéresser aux logiques sociales, le pourquoi, mais uniquement au comment s'exercent les disciplines, les normes et les techniques du pouvoir sur le corps du travailleur. C'est de dire, en fait, c'est là précisément que ça s'articule, c'est-à-dire que si les corps sont soumis à une telle discipline, à une telle enrigimentement de leur temps et de leur espace, c'est bien parce qu'il y a la nécessité de l'accumulation. Donc il y a une manière de réinsérer Foucault dans un cadre marxiste qui est assez élégante, je trouve, et aussi ça lui permet, pareil, je n'attarderai pas plus que ça, mais de s'attarder à nouveau sur une tradition marxiste maintenant connue, mais qui l'a moins été, mais critique de la technologie, que ce soit chez les opéraïstes ou chez Braverman ou chez d'autres, de dire: puisque la technologie a pour rôle d'intensifier au plus près des corps et des processus productifs cette contrainte du capital, elle n'est jamais neutre. Et donc c'est la fin de tout déterminisme du développement des forces productives. Et du coup, il reprend cette idée chez Marx, mais chez d'autres, qui est de dire, faire l'histoire de la technologie et des techniques, c'est faire l'histoire de la lutte des classes, en fait. Et que c'est toujours une réponse capitaliste, développement capitaliste, n'est jamais une simple affaire de productivité dans un sens strictement technique ou quasi thermodynamique, mais dans un sens aussi de contrôle, de dépossession, de déqualification et de maîtrise à travers tous ces intermédiaires qui sont les managers, etc., et qui participent au premier rang de cette contrôle et cette maîtrise sur tous les espaces-temps du travail et de la production.
Il a une formule qui est pas mal, où il dit qu'en fait, c'est dans la subsomption formelle, ça va être un mix à la fois d'efficacité technique, c'est vraiment l'analyse non marxienne des machines, et de technique de pouvoir. C'est deux dimensions de la technique qui sont présentes dans une mise au pas, finalement, de la production. Il parle de double dépossession sociale et objective de la production.
Là, il y a aussi encore une logique de montrer le caractère assez impersonnel, en fait, de cette contrainte muette. Parce que il revient à toutes ces descriptions que peut avoir Marx, mais qu'ont pu avoir d'autres marxistes, sur à quel point, en fait, il y a quelque chose de despotique, de tyrannique sur le lieu de travail, mais que c'est pas ça qui fait la contrainte muette. Et là, il rentre un peu dans un débat avec certaines lectures décoloniales et le débat entre Chibert et Chakrabarty, etc. Et il veut montrer qu'en fait, le caractère personnel ou tyrannique du capitaliste n'est qu'une forme de manifestation d'un pouvoir impersonnel qui, lui, se loge dans les logiques de subsomption réelle du capital, qui sont des logiques de réorganisation, des logiques de productivité, etc., etc. Le fait qu'on puisse avoir encore des formes tyranniques de patronat, de discipline, etc., ne doit pas nous cacher que c'est encore pas ça la spécificité de la contrainte muette. Enfin voilà, il dit Schieber a raison face à certaines critiques qui pensent qu'en Inde, en fait, on n'a jamais vraiment eu la forme de capitalisme qu'on a eu en Europe. Il dit, bah non, en fait, en Europe aussi, il y avait cette dimension tyrannique du capital au 19e siècle et encore aujourd'hui, mais c'est pas ça qui fait le caractère impersonnel et les logiques impersonnelles de ce pouvoir.
Cette notion de subsomption, il la réutilise pour parler de la subsomption de la nature.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il en dit en quelques mots?
Moi, je le trouve intéressant puisque il va souligner que, ouais, l'agriculture est toujours restée un peu une sphère assez imperméable à des logiques capitalistes, mais qu'en fait, voilà, il y a eu des subsomptions plutôt formelles où on va rassembler les producteurs sur des grandes exploitations agricoles intensives, mais qu'en fait, là, on arrive à un niveau de subsomption réelle de la nature où ce que fait le capital, c'est de changer la capacité qu'avaient les agriculteurs à utiliser des semences ou, par exemple, à utiliser le fait que la nature se reproduise elle-même. Donc, la subsomption réelle ici dans l'agriculture, c'est au moment où le capital bloque le caractère quasi biologique de certains processus de reproduction de la nature et crée ce qu'on appelle, par exemple, des semences Terminator qui vont produire des plantes qui elles-mêmes ne produiront aucune semence viable. Et donc là, c'est encore des logiques de valorisation extrêmement poussées où l'agriculture elle-même va dépendre complètement, même à l'échelle de ces processus biologiques, d'engrais, de processus de synthèse, de graines qui vont elles-mêmes être marchandisées. Donc en fait, c'est ça qu'il décrit, c'est une marchandisation et un changement qualitatif de l'agriculture et de processus agricoles. Je trouve intéressant puisque du coup, sans vouloir étendre indéfiniment le concept de subsomption, il en trouve un réel prolongement dans des choses qui sont arrivées dans les dernières 40 ans et qui sont mortifères.
L'analyse qu'il fait de l'agriculture, le chapitre est assez synthétique, mais assez, enfin, à l'image du reste du livre, assez dense et assez fouillé quand même, assez complet dans ce qu'il en dit. Il va s'intéresser aux transformations technologiques, à la restructuration de l'organisation de la division du travail agricole et à l'assujettissement au marché. Donc c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on pourrait faire d'une analyse d'un processus de travail et de la manière dont il est subsumé et modifié au cours du temps. Dans le chapitre suivant, il s'intéresse au pouvoir logistique. Donc là, on va rejoindre la dimension spatiale de la dynamique du pouvoir économique du capital. Qu'est-ce que tu peux nous résumer là-dessus, Pablo?
Eh ben, c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure sur la manière dont le capital s'accapare les dimensions sociales et objectives de la division du travail. Et ici, il s'agit des dimensions spatiales et géographiques. Et qui est lié à cette question du temps. Il reprend la fameuse formule de Marx de l'annihilation de l'espace par le temps. C'est-à-dire que de la même manière que pour la subsomption de la nature, il s'agit de ne plus se laisser contraindre par l'autonomie des temporalités de la nature. Là, cette fois, c'est dans le domaine de l'espace. Et donc, d'une part, il y a une une logique qui se déploie, qui est presque propre au capital lui-même, c'est-à-dire diminuer le temps de circulation, qui est un temps où le capital perd de l'argent sans se valoriser, de diminuer le plus possible, donc accélérer et multiplier les canaux de communication, les moyens d'enserrer la terre de multiples moyens de transport et d'information. Mais aussi là où ça rejoue ce rapport comme une forme d'aggravation et d'intensification de la contrainte, à la fois dans les rapports verticaux et dans les rapports horizontaux. Et ce que ça lui permet de faire, c'est que cette capacité permanente de relocaliser la production d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche des plus bas coûts, c'est finalement une aggravation de la fameuse concurrence entre les travailleurs et entre les prolétaires qu'on a cité avant. Donc c'est ici que le capital, en connaissance d'une de ces contraintes muettes qui est celle de la concurrence, se l'approprie, en fait sa propre présupposition et quelque part se met à la planifier, à l'organiser, à l'orchestrer. Et ça rejoint cette histoire des technologies comme histoire de la lutte des classes. C'est-à-dire que la révolution logistique, même si le capital a toujours été traversé par une dimension logistique, la révolution logistique au sens de la conteneurisation des années 70 et ses suites, elle est directement une réponse aux luttes des classes dans les grands centres capitalistes des années 60-70. Donc il reprend à Berns notamment cette idée que, ici encore, la technologie comme moyen d'intensifier sa contrainte sur les travailleurs et sur la concurrence entre eux, elle est toujours le produit non pas d'une simple amélioration de productivité au sens le plus strict et quasi mathématique, mais qu'elle est aussi un assaut de classe.
Il dit que c'est une arme, hein, même.
Oui, il dit que c'est une arme. La logistique, c'est une arme.
Et aussi, les deux autres endroits où la contrainte est renforcée par la logistique, c'est que c'est aussi la contrainte sur les capitalistes eux-mêmes, puisque la cascade de sous-traitants, de fournisseurs, d'entreprises capitalistes externalisées qui rentrent dans les chaînes logistiques, peuvent être aussi par les grands monopoles de la distribution, les grossistes, les entrepôts, peuvent être mis en concurrence aussi entre eux pour celui qui fournira les meilleurs coûts, les meilleures durées, temps de production, etc.
C'est là que ça s'articule avec ce qu'on voyait tout à l'heure sur les rapports horizontaux, c'est-à-dire que renforcer la concurrence entre capitalistes in fine, c'est une pression supplémentaire dans la contrainte économique qui s'applique aux travailleurs, y compris sur le lieu de travail. Enfin, c'est là qu'on voit l'aspect circulaire et dynamique, c'est une espèce d'accroissement sans fin de la domination économique.
Et d'ailleurs, même dans la dimension la plus élémentaire de la contrainte muette, qui est celle de la dépendance pour la simple survie au circuit de la valorisation, la logistique, c'est quelque part un peu le climax de ça, puisque c'est vraiment, comme l'extrait que t'as lu sur le téléphone et l'aliénation des grandes villes et d'éviter la romantisation ou le naturalisme ou l'humanisme dans la critique de ces processus-là. Par contre, c'est de dire que ces processus font dépendre la survie individuelle de quelqu'un ici et maintenant en France, de processus économiques et sociaux et productifs et reproductifs qui se déroulent à l'autre bout du monde. Donc c'est aussi la manière dont la logique de la valorisation enserre le globe, l'espèce humaine, dans tous les composants de sa vie et de sa survie. Et ça amène à une autre petite question, plus rapidement ébauchée par Mao en reprenant les débats qui ont posé Jasper Berns à Alberto Toscano. La question du caractère politique de la technologie et de la technologie en tant qu'elle est le produit de la lutte des classes pose aussi beaucoup de questions sur du coup qu'est-ce qu'on fait de la technologie. On aura l'occasion d'en reparler en parlant des prochaines sorties de Sans Soleil, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces technologies qui peuvent être vues d'une part comme une espèce de en jachère, une capacité de planification de la production à une échelle jamais atteinte auparavant. Donc pour Toscano, qui est partisan de cette hypothèse de la reconfiguration, une vraiment plein de possibles, avec des outils nouveaux, des moyens de monitorer, de suivre les biens, pour savoir exactement quelle serait la demande à un endroit de tel bien produit à un autre. Et Berns qui dit plutôt, mais un tel niveau de division du travail, il faut avoir en tête que d'une part, ça empêche tout processus de réappropriation collective, sans aussi une forme de déqualification, de division du travail extrêmement intense qui est peut-être pas compatible avec le communisme, mais aussi que ces technologies et cette division de travail, elle est complètement liée à la nécessité de la valorisation, c'est-à-dire le fait qu'on produise tel composant, tel endroit, ça n'a aucune justification, entre guillemets, rationnelle, autre que celle de la valorisation du capital, donc on ne peut pas s'en saisir telle quelle de ces technologies et de cette division du travail.
Et là-dedans, Mao, il penche plutôt du côté de Berns, puisqu'il a cette formule où il dit que la logistique et les infrastructures permettent de graver la logique du capital à même la croûte terrestre. Alors c'est un peu lyrique, mais enfin, on sent bien que là, il a du mal à imaginer, a priori, une reconfiguration de la logistique dans une optique communiste plutôt que capitaliste.
Oui, et puis il y a aussi cette chose de dire que bon, la logistique, ça fait partie du processus de production, et du coup, de voir aussi ces luttes, non pas seulement comme des luttes sur la sphère de la circulation, mais des luttes à même la sphère de la production, parce que la sphère de la production ne se termine pas à la sortie de l'usine, quoi, et que toute la dimension logistique doit être aussi prise en compte dans la sphère de la production.
Et donc le dernier chapitre s'appelle « Population excédentaire et crise », le sujet assez différent. Vous souhaitez tous les deux dire un mot l'un sur la crise et l'autre sur la population excédentaire. Donc, on commence par les populations excédentaires.
Alors oui, il revient sur la question des populations excédentaires qui, en fait, sont un peu au cœur de certains textes aussi des collectifs EndNote depuis assez longtemps, puisqu'ils se sont quand même beaucoup réorganisés autour des théories sur les populations excédentaires, la surpopulation relative, la théorie de l'armée industrielle de réserve. Donc là, on voit qu'il est en dialogue avec EndNote et ça l'intéresse puisque... en fait, c'est un peu une théorie qui n'a pour le coup pas été vraiment importante pour beaucoup de marxistes au XXe siècle, puisqu'elle était souvent associée à la théorie de la paupérisation ou à une sorte de déclin inévitable du niveau de vie de la classe ouvrière, ce qui en fait empiriquement ne s'est pas révélé être le cas dans les années 50-60. Donc c'est pas en fait une tendance ou une dynamique qui a été importante pour beaucoup de marxistes, mais elle reprend son sens aujourd'hui, étant donné la stagnation en fait que vit le capital en ce moment, qui n'est plus celle des Trente Glorieuses, et sa capacité à encore plus mettre la pression dans ses rapports horizontaux. Donc on revient encore à cette question de la concurrence et des rapports horizontaux, en profitant de cette énorme armée de réserve qui a été produite. Donc il revient quand même sur les trois concepts de surpopulation flottante, latente, stagnante. Donc il essaye précisément de montrer les différents types de populations. Il dit des gens comme Benanave et Clegg ont eu raison de se ressaisir de ça, puisqu'aujourd'hui on serait face à vraiment une quantité significative de la population mondiale qui serait cantonnée à faire partie de cette surpopulation et qui est encore un autre moyen, un autre levier de ce pouvoir du capital qui peut reprendre, jeter, mettre en concurrence tous ces travailleurs qui sont aux marges de la valorisation, qui sont repris par la valorisation, etc., etc. Donc voilà. Donc moi, ça me paraissait un détour rapide mais intéressant.
Sur la crise, je vais pas non plus m'attarder parce que lui-même ne le fait pas, mais autant sur plein de sujets, il a toujours pour soin de consulter une vaste littérature sur la crise, il est beaucoup plus rapide, il se range très très vite à l'avis d'Heinrich sur le fait que la théorie décrite chez Marx est absente ou incohérente quand elle est là, en gros. Ce que je trouve intéressant, dans la manière dont il aborde la question des crises, un peu comme pour les surnuméraires, c'est qu'il ne le fait pas du point de vue de détricoter les causes, comme la tradition marxiste l'a souvent fait, mais de poser, en référence à cette circularité du pouvoir du capital qui produit ses propres conditions, enfin ses résultats devant les conditions de son exercice, c'est que du coup il s'intéresse à la crise en tant qu'elle est aussi, non pas ce moment de défaisance, d'effondrement du capital et du coup d'ouverture de possible, mais au contraire, à travers la manière dont le rétablissement de l'accumulation après la crise passe par cette purge de capitaux, par la destruction du capital, y compris du capital variable, donc de prolétaires, par une espèce de renforcement de la discipline du marché en quelque part disant le temps des vaches grasses est terminé, enfin avec cette manière qu'il y a dans les crises d'arrêter le soutien à des capitalistes qui ne sont pas solvables, etc. Enfin bref, destruction massive de richesses et d'accès au marché du travail, que c'est aussi un moment de disciplinarisation intense du coup. Les postes de travail sur le marché se raréfiant, les entreprises qui ferment, les conditions de vie qui deviennent de plus en plus dures, c'est aussi un moment, contrairement peut-être à une vision un peu messianique ou quasi eschatologique de la crise comme moment où les contradictions se révèlent, où le masque de l'État tombe et son vrai visage se montre enfin et du coup tout est révélé et donc la lutte peut prendre la forme la plus pure et la plus claire de l'affrontement de classe, il montre plutôt comment pour lui c'est un moment qui est tactiquement et stratégiquement utilisé par les capitalistes pour renforcer encore cette contrainte-là. Il prend l'exemple du Chili de Pinochet, mais au-delà de cet exemple particulier, c'est la manière de dire que on ne s'est peut-être pas assez intéressé dans la littérature marxiste sur la théorie des crises au fait que Marx, par moment, insiste sur le fait que la crise est avant tout un phénomène cyclique dans lequel le capital aussi connaît une nouvelle un rajeunissement. Il parle de ça, Marx, et Mao lui reprend l'expression. Ça lui permet de boucler sur cette question de dire « Je ne vais pas terminer mon livre en disant que la crise est le moment où le pouvoir du capital s'effondre. » Ce qu'on pourrait attendre un peu, ce serait presque le « happy ending » d'un livre pareil, mais que plutôt à l'inverse, c'est un autre moment où la contrainte muette du capital s'exerce dans toute sa force et son caractère implacable.
Il rajoute en même temps aussi que la crise révèle aussi qu'il n'y a pas une espèce de centre capitaliste ou un centre de commandement, enfin on n'a pas d'une domination personnelle qui déciderait de la crise à un moment où ça serait pratique de la dégainer comme un joker dans la domination, mais que par le fait que ça va aussi s'appliquer à l'ensemble des classes, y compris capitalistes, bah, on se retrouve encore avec cette domination impersonnelle.
T'as raison de préciser ça, parce que en résumant, ça pourrait donner l'impression que chez Mao, il y a une théorie de la crise, un peu comme chez certains post-opéraïstes ou d'autres, où c'est presque, voilà, c'est presque une décision des capitalistes. Bon, c'est la merde en ce moment, sur le front de la lutte des classes, on est en train de perdre, on est en retrait, du coup, il faut sortir de notre chapeau ce mensonge de la crise comme strictement tactique pour justifier de tout... Ce qui est une lecture qui a existé hein, au moment de la crise de 2008 ou la crise de la dette souveraine en Grèce, c'est quelque chose qu'on a vu défendu par certains théoriciens, certains camarades, mais je pense que là t'as raison de rappeler qu'il est fidèle à une théorie des crises et de la valeur relativement classique, en ce sens que le capital passe par la crise de fait.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet ouvrage. Le résumé qu'il en fait lui-même, c'est que la contrainte muette du capital, c'est le résultat d'un ensemble spécifique de rapports sociaux et d'un ensemble spécifique de dynamiques mises en mouvement par ces rapports. Une synthèse à l'image de sa capacité analytique et explicative dans tout le livre. Alors pour finir, peut-être, on peut mettre cet ouvrage en relation avec votre propre dynamique éditoriale et peut-être des ouvrages qui vont sortir et qui s'articulent avec... Contrainte muette, est-ce que vous voulez en dire quelques mots des prochaines sorties dans les mois à venir?
Ouais, j'en profite en repartant de la fin du livre, de la conclusion chez Mao, et je l'ai défendu tout à l'heure sur d'autres questions, sur le fait qu'il dit, voilà, cet ouvrage n'a pas de prétention politique au sens direct, c'est-à-dire c'est un outil, ce niveau d'abstraction, pour reconstituer des conjonctures particulières dans lesquelles intervenir politiquement, il est nécessaire, mais pas suffisant, et c'est sa seule et unique contribution. En revanche, je pense que là où il produit une certaine exigence de la manière de penser le communisme et la rupture révolutionnaire, c'est sur la question de son échelle. Or, Zoran Mao a publié il y a quelque temps, la traduction est parue dans Contre-temps, un court texte dans lequel il commence un nouveau chantier qui est celui du contenu du communisme, et il retombe quelque part sur des formes de reproduction collective à échelle communale où ce qui fait l'alpha et l'oméga de son caractère communiste, c'est les formes de délibération. Du coup, c'est d'abord les processus de décision. Et du coup, la question de la production est relativement absente, d'une part, et d'autre part, l'échelle à laquelle il se situe est relativement restreinte, des petites communes autosuffisantes, qu'on suppose autosuffisantes. Et on a été sensible à Sans Soleil, il y a un texte de Nick Chavez, dont d'autres textes ont déjà été discutés dans l'émission, il me semble, et Phil Neal, qui s'appelle Fabrique et Forêt, et qui paraîtra au mois d'avril, et dans lequel ils repartent de ce qu'ils voient comme des manquements chez Zoran Mao, en disant quelque part, Zoran Mao ne prend pas au sérieux suffisamment sa propre théorie. C'est-à-dire que, en imaginant le capital comme ce rapport qui s'est immiscé au niveau métabolique à l'échelle de l'espèce, un communisme qui ne partirait pas à minima de la même espèce n'est pas à la hauteur de l'enjeu, à la fois de l'adversaire à battre, et aussi sur le fait que, comme on en parlait tout à l'heure, ce niveau d'interconnexion et d'interdépendance que nous a imposé le capital pour des nécessités de valorisation, dans le communisme, on va en hériter quelque part. Donc il voudra bien partir de là. Et donc cette question de la production et de la reproduction sociale à cette échelle doit être quelque part le point de départ de toute réflexion sur le contenu du communisme. Et c'est ce que du coup, à la suite de leur critique de Zoran Mao, Nick Chavez et Phil Neal se sont proposés de faire dans un livre donc, qui s'appelle Fabriquer Forêt, qui est un court texte dans lequel ils essayent de donner un contenu positif au communisme, non pas en partant de ce qu'on aimerait vouloir advenir, ou des processus de délibération qui seraient les plus libres et égalitaires possibles, mais plutôt d'une série de contraintes en négatif. Ils font cette critique, ils disent finalement, souvent, quand des auteurs, des autrices cessent au genre de décrire le contenu du communisme, ils se font taxer de faire de la science-fiction. On leur fait ce reproche-là. Et eux, ils leur disent, nous, c'est même pas ça notre problème. Notre problème, c'est que dans ces fameuses science-fictions, il y a beaucoup de fiction et assez peu de science. Et du coup, ils essayent de repenser la question de l'appareil productif à l'échelle de l'espèce, à l'échelle planétaire, comme étant vraiment ce point zéro de la reconfiguration communiste, et en disant, c'est d'abord des questions climatiques et écologiques, des capacités techniques et logistiques, des formes de subjectivité productive, c'est-à-dire des qualifications, des formations, etc., qui vont être à minima des conditions à réunir pour ne serait-ce que survivre en tant qu'espèce. Et c'est un peu... Quelque part, de la même manière que Mao vient après Endnotes, qui a amené toutes ses réflexions sur le genre, sur le sujet révolutionnaire à l'ère de post-mouvement ouvrier traditionnel. Là, c'est une brique supplémentaire dans cette collection théorique, c'est qu'est-ce que du coup, une fois qu'on a fait une théorie du capital, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme condition de base et minimale pour une théorie du communisme.
Tu le mentionnais, hein, je précise juste qu'en effet, on a discuté des textes de Chavez, y compris un peu Forest et Factory, enfin, donc Fabrique et Forêt, mais pris sous le prisme, on va dire purement technique, enfin, de la reconfiguration des moyens techniques et puis en lien avec des réflexions sur la division du travail, l'expertise, l'ingénierie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette porte d'entrée métabolique qu'on n'avait pas du tout discuté. Enfin, le texte est assez riche, hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Un autre ouvrage qu'on va sortir l'année prochaine, à part le Fabrique et Forêt, c'est un des premiers livres qui maintenant appartient un tout petit peu à ce courant du marxisme écologique, même si en fait c'est pas vraiment un livre écologique, c'est un livre d'Alfred Schmitt sur le concept de nature chez Marx. Ça aussi, bah, ça va être un ouvrage qui prolonge en fait une des veines du marxisme qui nous intéresse, et puis les discussions sur le rapport métabolique à la nature qui sont quand même importants dans le texte de Mao. Donc voilà, ça c'est deux ouvrages de théorie qui sortent l'année prochaine et qui sont quand même plus ou moins en dialogue ou en discussion souterraine avec le texte de Mao. Et sinon, bah, lisez le livre, c'est génial. Ça peut être un livre de chevet pour... Enfin, pas de chevet, peut-être pas de chevet, ça c'est un peu exagéré. Mais qu'en gros, ouais. C'est un livre qui accompagne, à mon avis, qu'on se plonge dans un thème ou un autre. Je pense que c'est un bon livre d'accompagnement. C'est pas un livre hyper précis qui rentre dans tous les débats, mais en fait, quand on veut... Savoir ce qui se passe dans un champ sur un concept ou un problème, c'est un bon...
C'est un très beau panorama.
Ouais, un très beau panorama.
Eh ben, on va s'arrêter là-dessus.
Merci.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. C'était un plaisir de discuter de ce livre avec vous. Et puis...
Mais c'était un plaisir. À la prochaine.
À la prochaine.
Ouais, merci à vous.
Spectre.